Vous écoutez France Musique.
Changer de disque, Émilie Munera.
Bonjour à tous, au programme un Don Carlo de Verdi avec Annie Arteros et Jonas Kaufmann. Trois ténors réédités, la découverte d'un compositeur oublié, c'est Arthur Benjamin. À 17h30, la chronique musique contemporaine avec Omer Corlet, c'est Marc-Anthony Tornage qui est aujourd'hui au programme. Monteverdi à Venise, c'est le sous-titre du nouveau disque de Rinaldo Alessandrini qui a reconstitué rien que pour nous des Vêpres de Saint-Maur et c'est édité par le label Naïve. Le responsorium qui ouvre les Vêpres solennelles de San Marco, Claudio Monteverdi, avec le concerto italiano de Rinaldo Alessandrini, qui revient à son compositeur favori, tout en fêtant les 30 ans de son ensemble. Monteverdi, qui est arrivé à Venise en 1613, qui est une ville, vraiment une ville qui s'est révélée être idéale pour lui, puisqu'il est devenu maître de chapelle à la basilique Saint-Marc, et puis son activité va être intense. Déjà, il va décider de moderniser la cappella, il va renouveler le chœur, il va enrichir l'ensemble instrumental, et puis il va tirer des musiciens un niveau de jeu extrêmement exigeant et ça se ressent bien évidemment dans les compositions qu'il écrit à ce moment-là. C'est Vêpres de Saint-Marc, donc enregistré, reconstitution possible parmi d'autres, c'est en tout cas ce que nous dit Rinaldo Alessandrini. Il n'a pas pu enregistrer à Saint-Marc, vous imaginez pourquoi, hein, il ne pouvait pas réquisitionner cette basilique pour lui, donc il est allé à Mantoue, là où Monteverdi était auparavant, pour enregistrer ce disque et il y a vraiment une très très belle prise de son, c'est aussi ce qu'on entend quand on écoute et quand on déroule ce disque. Un soin apporté également à l'équilibre de son ensemble instrumental, de très beaux solistes, comme souvent d'ailleurs avec le chef italien qui fait très attention quand il choisit ses voix. C'est une sortie donc sous le label Naïve. « Nouvel extrait de ces Vêpres de Saint-Marc, Claudio Monteverdi, défendu ici par le Concerto Italiano de Rinaldo Alessandrini avec les voix de Anna Simboli, Luca Dordolo et Matteo Bellotto. C'est un nouveau disque qui sort sous le label Naïve avec un DVD où vous verrez ce qu'on appelle le making-of de cet enregistrement et les témoignages de Rinaldo Alessandrini. On essaiera de reparler du Concerto Italiano et d'Alessandrini à la fin d'émission puisque avec votre diapason ce mois-ci, vous avez un disque où il y a les madrigaux, quelques madrigaux de Monteverdi. J'aimerais bien vous en passer un extrait à la fin de cette émission. On passe à un tout autre compositeur, c'est Philippe Gobert. Il a eu les honneurs de changer de disque récemment parce qu'il y a eu un très beau disque de musique de chambre qui a eu un coup de cœur de l'émission. Et cette fois-ci, on le découvre à travers un nouveau disque avec ses œuvres pour flûte.
Thank you.
Le scherzo qui referme la suite pour flûte et piano de Philippe Gobert, Vincent Lucas et Laurent Vachal pour nous faire découvrir la musique de ce musicien qui fut directeur de l'Opéra de Paris, chef d'orchestre de la Société des Concerts du Conservatoire, de l'Orchestre de l'Opéra aussi, et puis évidemment professeur de flûte. Et quel professeur, puisqu'il a vraiment porté son instrument à très haut niveau. C'est avec lui que rayonne également l'école française de flûte. Ses œuvres d'ailleurs pour l'instrument représentent à peu près un tiers de sa musique de chambre. Donc il a énormément écrit pour son instrument. Vincent Lucas, Laurent Vachal, qui enregistre donc l'intégrale des duos flûte-piano. Laurent Vachal, qu'on entend souvent et qui ressuscite très régulièrement des compositeurs français oubliés. Il y a deux disques, 16 œuvres, des formes très diverses, sonates, berceuses, nocturnes, ballades, une production bien mise en valeur par ces deux artistes. C'est édité par le label Indécence.
Thank you.
Premier mouvement, la troisième sonate pour flûte et piano, Philippe Gobert, interprété par Vincent Lucas à la flûte et Laurent Vachal au piano. C'est un nouveau disque sous le label Indécence. On finit par un Don Carlo de Verdi donné à Salzbourg à l'été 2013, une production qui avait eu énormément de succès. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu à la télévision puisque Arte l'a retransmis en août dernier. Alors pour ceux qui auraient raté cela, il y a aujourd'hui un DVD qui nous arrive à la mise en scène. C'est Peter Stein qui donne vraiment une lecture très conventionnelle, finalement proche du texte, puisqu'il n'a pas voulu faire de transposition ici. On reste au temps de l'opéra. C'est très sobre et puis surtout, c'est très juste. Il n'y a pas d'extravagance, c'est très épuré. Il suit le texte à la lettre et parfois, ça fait du bien avec en prime de beaux éclairages et puis des costumes assez élégants. La distribution, elle aussi, est de premier ordre. On a Thomas Sampson en valeureux Rodrigo. C'est un rôle qu'il chante depuis bien longtemps déjà. Et Katerina Semenchuk en très belle princesse Eboli. Puis, il y a le couple star, Jonas Kaufmann et Anya Arteros. On est obligé finalement, on a l'impression de faire des opéras avec eux pour que ça marche et on le comprend. D'ailleurs, peut-être que vous avez entendu un extrait de ce DVD ou en tout cas la voix d'Anya Arteros hier lors du Lirico Spinto de Stéphane Grand puisqu'il a consacré une heure à la chanteuse et je vous encourage à aller réécouter cette émission parce que c'est vrai que c'est peut-être aujourd'hui une des plus grandes de notre époque. En tout cas, elle est incandescente ici aux côtés de Jonas Kaufmann. Les voici donc ce Don Carlo, c'est un DVD qui vient de sortir.
Oh!
Superbe duo entre Jonas Kaufmann et Anya Arteros pour ce Don Carlo de Verdi, la grande classe. Le philharmonique de Vienne, Antonio Papano, et la mise en scène, c'est celle de Peter Stein. C'est édité par le label Unitel Classique. Et je vous ai mis une petite bande-annonce sur Facebook si vous avez envie de voir à quoi ressemble ce spectacle. Vous pouvez également réécouter Anya Arteros, l'émission que lui a consacrée Stéphane Grant hier dans son Lyrico Spinto en ligne sur francemusique.fr. Elle sera ce soir en concert à l'Opéra de Paris, l'une des rares fois où on a pu l'entendre donc cette saison. 17h30 sur France Musique. Bonjour Omer Corlet.
Bonjour Émilie.
Vous allez bien ?
Ah bah oui, oui, c'est un lundi, hein, lundi de Pentecôte, espérons que l'Esprit Saint sera sur nous.
Mais l'Esprit Saint, je pense, est toujours sur vous, Omer, je crois que c'est un petit peu ce qui vous caractérise. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un compositeur britannique, vous nous avez déjà parlé d'un set d'opéra qui s'appelait Anna Nicole, mais c'est vrai qu'on le connaît beaucoup mieux en Grande-Bretagne, il est vraiment connu chez lui, très peu en France finalement.
Oui, parce que c'est un compositeur un petit peu à part, Anthony Turner. Bon, moi, je l'ai connu surtout par rapport à The Greek au départ, qu'elle avait mis en scène. D'abord, il avait mis en scène la mise en scène de théâtre de Stephen Berkoff, qui est vraiment une version de l'Oedipe très trash, à l'anglaise, comme ils savent le faire. Et là, Anna Nicole, bon, c'était une petite sœur de Marilyn Monroe dans son destin, dans sa tragédie, dans son
Bimbo,
histoire.
Oui. Oui.
Et ce disque-là, c'est une monographie. Alors, on avait aussi entendu, vu à l'Opéra de Paris, un ballet, un triptyque autour d'Alexandre Farnèse, de de Bacon, avec les jeux de déformation des anamorphoses que pratique Bacon en peinture. Et là, c'est un portrait, on peut dire, une monographie du LSO, puisque le LSO a son London Symphonic Orchestra, a aussi son label, donc il le diffuse. Et là, on a aussi l'autre enfant terrible, Daniel Harding. Alors, si on a en plus Daniel Harding, on a comme ça les deux enfants terribles de la musique anglaise d'aujourd'hui. Et ce que j'aime beaucoup dans Anthony Turner, c'est qu'il est en 1960, donc ça fait 54 ans aujourd'hui. Ce que j'aime, c'est surtout ce style. Il a été marqué par Günther Schuller. Donc, il fait un alliage entre la musique d'orchestre contemporaine, mais aussi le jazz. Il y a un côté toujours jazzy dans sa manière de faire de la musique. Et là, il y a deux œuvres. Une œuvre d'orchestre Speranza, Espérance, qui dure 50 minutes. C'est à partir d'une réflexion sur l'œuvre de Paul Celan, un poète très important, qui est né en Galicie, qui est mort en France, qui a enseigné en France, qui est le grand poète allemand, mais qui a refusé l'Allemagne pour les raisons historiques qu'on connaît bien maintenant. Et puis, il y a Fond de Red Sketch, qui s'appelle, qu'on peut traduire du naufrage, est un concerto pour trompette. Ce qui m'a plu justement dans ce concerto pour trompette, c'est d'abord le trompettiste, hein, qui est un Suédois, Håkan Adenberger. Et là, ce qui m'a plu, c'est comment on arrive à travailler toutes les trompettes. Il y a le bugle, il y a la trompette normale, et puis le piccolo que je vous ferai entendre. C'est la manière dont on peut travailler l'orchestration, faire dans l'orchestration, donner une qualité, un plaisir. Ça dure 18 minutes, mais je trouve que c'est une œuvre magnifique dans la manière de nous raconter une histoire avec un instrument soliste, la trompette, qu'on entend trop rarement, je pense, dans les concertos. Et là, je crois que c'est une réussite dans cette manière de faire. Alors on va l'entendre, vous allez voir le génie de l'orchestration. J'ai pris la fin parce que justement dans la fin de la trompette piccolo, et on voit comment l'orchestre, les hésitations, peut-être aussi la fin du naufrage. donc de Anthony Turner, From the Wreck Cage, du naufrage, avec le trompettiste, alors c'est Bugle, hein, faut pas dire ce que j'ai, Bugle, faut pas dire Bugle. Oui, je le prononce toujours très mal. Kanadenberger, c'est qui est l'interprète, et puis c'est le London Symphony Orchestra, Daniel Harding au pupitre, à la direction, et c'est le London Symphony Orchestra, et le label c'est LSO, c'est un SACD, c'est toujours très très bien enregistré, parce que le final, évidemment, du naufrage, comme on dit, la trompette disparaît progressivement, c'est une petite voix, un filet de voix qui apparaît. Ben, c'est un très 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 beau disque toujours. Et puis aussi, il ne faut pas oublier l'œuvre Espérance, c'est aussi une œuvre de 50 minutes, 40 minutes d'orchestre impressionnant.
Un peu entre Stravinsky et Miles Davis.
Hein, il y a du Miles Davis, il est très influencé par le Miles Davis, effectivement.
Ah, bah alors là, je suis bien contente.
Dans le concerto. Non, mais c'est indéniable dans la manière de l'usage de la trompette. Mais en même temps, c'est ce jazz. Il a réussi à faire la synthèse de Günther Schuller, qui est toujours un peu, pour moi, un peu maladroite comme manière de faire la synthèse, parce qu'il est marqué plus par la tradition de Schoenberg. Là, il va beaucoup plus. Je trouve que c'est beaucoup plus intégré, son jazz, dans sa manière de faire la musique.
Merci, Omer Corlet, pour cette découverte. Chaque fois, une ambiance très différente, hein, chaque semaine avec vous.
Oui.
Mais c'est tout vous, ça. Et merci d'avoir été en direct avec nous sur France Musique. On va passer à trois ténors pour le prix d'un. C'est le label Sony qui hérédite un concert mythique de 94 où on pouvait entendre José Carreras, Placido Domingo et Luciano Pavarotti. Mais oui, une nouvelle Coupe du Monde qui arrive. Donc forcément, à chaque fois, les trois ténors donnaient un concert. Donc, les tubes du répertoire. donnez-nous une foule en délire, un peu de pathos, ces trois ténors. C'était Luciano Pavarotti pour Nessun Dorma, Puccini, avec l'orchestre de Los Angeles et Zubin Mehta. Vous savez que c'est comme un concert de rock. Ils n'ont jamais le temps de finir les airs d'opéra que tout le monde hurle. Il y a tellement de groupies. Concert donc donné en 94 à Los Angeles. C'est la première fois qu'ils sont produits ensemble. C'était en 90. L'idée, c'était de récolter des fonds au profit de la fondation créée par José Carreras pour aider la recherche contre la leucémie. Rome 90, pendant la Coupe du Monde, il y a eu un succès, mais tellement énorme qu'ils ont repris et ils ont renouvelé l'expérience 4 ans plus tard avec la Coupe du Monde à Los Angeles, en 98 à Paris et en 2002 au Japon, avec chaque fois le même programme de grands airs d'opéra classique, mais aussi des tubes de variété, de pop et de jazz. Ah, Moon River et ses cordes qui pleurent. Ça vous plaît, Homer ?
Oui.
Bon, dis donc, j'ai pas l'air convaincu. José Carreras, Placido Domingo et Luciano Pavarotti avec Zubin Mehta et l'orchestre voilà, de Los Angeles. Les trois ténors en concert en 94. On disait business is business. Hein. Ça ressort toujours, les compilations.
Ça marche.
Et ça marche, bien évidemment.
Il y a un peu de réverbération parfois, un peu trop, un peu bizarre.
Eh bien, écoutez, on leur fera part de votre petite critique.
Oh, non.
À la découverte de la musique d'Arthur Benjamin. C'est ce que nous propose le label Hyperion. Il nous fait découvrir ce compositeur qui est australien, un musicien qui a vécu entre 1893 et 1960 et qui fut connu pour cette pièce. Thank you. Une rumba jamaïcaine signée Arthur Benjamin avec Lawrence Power à l'alto, Simone Crawford Phillips au piano. C'est une de ces pièces jamaïcaines qui apparemment a fait le succès en 1938 de ce compositeur. Alors qui est-il ? Il est né en Australie, il va venir étudier au Royal College of Music de Londres avec Charles Villiers Stanford, une grande figure à l'époque en Grande-Bretagne, qui est compositeur et également professeur. Et en 14, il s'engage comme soldat pendant la Première Guerre mondiale. D'ailleurs, il va être fait prisonnier en 1918 par les Allemands. Interné près de Berlin, il va rester jusqu'à la fin de la guerre et pendant cette période, il va écrire la sonate pour violon, en tout cas il va l'esquisser et on la retrouve ici sur ce disque, une partie de sa production donc pour violon et pour alto. Et ce qui est assez intéressant, c'est que Lawrence Power, qui est altiste à la base, est passé au violon pour l'occasion. Il a décidé de se mettre aussi à cet instrument-là. Nouveau départ donc dans la carrière discographique de ce musicien qui est extrêmement connu en Grande-Bretagne. Le voici donc dans la sonatine pour violon. Thank you. La sonatine pour violon d'Arthur Benjamin, Lawrence Power et Simon Crawford Phillips pour découvrir la production pour violon et alto de ce compositeur sous le label Hyperion. On a ouvert cette émission avec Rinaldo et Lissandrini et son nouveau disque Les Vêpres de Saint-Marc de Monteverdi. Comme promis, eh bien on va refermer avec le même musicien et encore un disque Monteverdi que vous pouvez vous procurer avec le nouveau numéro de juin du magazine Diapason, les indispensables de Diapason. Et il y a donc des extraits, tout un florilège de madrigaux de Monteverdi enregistré par Rinaldo Alessandrini. Petit extrait. Comédoro, extrait du 7e livre de Madrigal de Claudio Monteverdi, Rinaldo Alessandrini. Et c'est ici les indispensables de Diapason que vous pouvez retrouver donc avec votre magazine et le nouveau disque Les Vêpres de Saint-Marc. C'est sorti également sous le label Naïve. Merci à l'équipe du jour. Merci à Cécile Gisseau, Elisabeth Gornet, Clément Berman, Antoine Courtin et Flora Sternadel.